Alors, avant-hier, 9 personnes ont été tuées dans une église noire de Charleston, en Caroline du Sud. Le meurtrier, un jeune blanc raciste de 21 ans, partisan de la suprématie blanche, nostalgique du régime de l'apartheid et de la ségrégation raciale. Ce carnage vient après une série de meurtres de Noirs par les policiers. Il rappelle que l'oppression des Noirs n'a pas pris fin aux États-Unis. Michael Brown, 18 ans, tué à Ferguson par un policier, non-lieu rendu par la justice. Eric Garner, 44 ans, étranglé à New York par un policier, non-lieu. John Crawford, 22 ans, tué par un policier dans un supermarché de l'Ohio alors qu'il manipulait un jouet, non-lieu. Tammy Rice, 12 ans, tué par un policier à Cleveland alors qu'il jouait avec une arme factice. Walter Scott, 50 ans, tué de 8 balles dans le dos par un policier de Caroline du Sud. Freddie Gray, 25 ans, malmené à mort par 6 policiers de Baltimore qui lui ont brisé la colonne vertébrale. La liste est longue. Au cœur de la première puissance mondiale, un pays qui se targue d'être celui de la liberté, les policiers ou les représentants de l'autorité tuent chaque année des centaines de gens. On ne sait pas combien au juste. Un journal britannique en a compté 500 depuis le 1er janvier. Des Noirs en proportion importante. Et le plus souvent, sans être inquiétés par la justice. C'est précisément à la suite du meurtre d'un jeune Noir par un policier qu'en 1964, le ghetto de Harlem a explosé. Une série d'autres émeutes allaient suivre, alors que la révolte des Noirs éclatait. Ces soulèvements venaient après 10 ans de lutte ininterrompue pour les droits civiques, et ils allaient être suivis par des années d'émeutes et de mobilisations diverses. Dans cette période, toutes les lois de la ségrégation ont été abolies, les droits civiques ont été adoptés, les discriminations ont été remises en cause. Dans les années 1970, au terme de 20 années de lutte, des Afro-Américains intégraient la police des grandes villes, d'autres devenaient maires, shérifs, représentants au Congrès ou officiers dans l'armée. Et en 2008, Barack Obama, un noir, était même élu président. Quelle meilleure preuve, nous expliquait-on, que les États-Unis en avaient fini avec l'oppression des Noirs. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les discriminations continuent, la ségrégation et le racisme même n'ont pas disparu. C'est de cette histoire, de cette situation dont nous allons parler ce soir, d'abord en remontant aux racines historiques de l'oppression des Noirs, puis en revenant sur les luttes qu'ils ont menées dans les années 1950 et 1960 et les avancées qu'elles ont permises, et enfin en évoquant la façon dont leur condition s'est de nouveau dégradée depuis une quarantaine d'années. Et sur ce sujet, je passe la parole à Michel Bondelet.
L'esclavage direct, écrivait Karl Marx, est le pivot de l'industrie bourgeoise, aussi bien que les machines, le crédit. Sans esclavage, pas de coton. Sans le coton, pas d'industrie moderne. La déportation d'Africains vers les Amériques avait un objectif économique, constituer une force de travail, alors que la main-d'œuvre de travailleurs blancs engagés, très utilisée au tout début de la colonisation, était plus coûteuse et moins abondante. Aux Caraïbes, le capitalisme a en quelque sorte redécouvert l'esclavage à partir du XVIe siècle, dans ses plantations sucrières qui sont devenues les vaches à lait de la bourgeoisie européenne. En Amérique du Nord, la même exploitation s'est poursuivie avec le tabac puis le coton. Sa finalité, c'était l'enrichissement de la bourgeoisie, britannique notamment. Et ce qui a commencé dans le cadre colonial au XVIIe siècle s'est poursuivi à partir des années 1780, dans des États-Unis politiquement indépendants, mais où les intérêts britanniques étaient toujours très présents au Sud. C'est cette accumulation primitive de capital, réalisée dans le commerce transatlantique d'esclaves, de sucre ou de coton, qui a permis à la bourgeoisie son enrichissement prodigieux. L'esclavage du Sud, c'était donc un système économique d'exploitation capitaliste, car les planteurs produisait pour le marché mondial en formation. Dans le même temps que l'industrie cotonnière introduisait en Angleterre l'esclavage des enfants, accusait Marx, aux États-Unis, elle transformait le traitement plus ou moins patriarcal des Noirs en un système d'exploitation mercantile. Le capital est venu au monde suant le sang et la boue par tous les pores. Les Noirs américains ont donc été à la base du développement économique des États-Unis. Ils vivaient pour l'essentiel dans le Sud et étaient même en majorité dans quelques États. Quelques milliers de familles blanches seulement constituaient la bourgeoisie des planteurs. La majorité des Blancs n'avait pas d'intérêt direct à l'exploitation des Noirs, mais les planteurs opposaient les Blancs pauvres aux Noirs pour mieux les dominer. Comme le soulignait l'abolitionniste Frédéric Douglass, je le cite, « Souvent, en dénonçant l'émancipation comme tendant à placer le travailleur blanc sur un pied d'égalité avec le nègre, les esclavagistes en appellent à leur fierté. Ce faisant, ils réussissent à faire oublier aux Blancs pauvres le fait qu'ils sont déjà, aux yeux du riche maître d'esclaves, à un pas de devenir les égaux de l'esclave. » Fin de citation. Même dans le Nord, les travailleurs blancs étaient souvent opposés à l'abolition, car ils redoutaient que l'arrivée de Noirs émancipés ne tire les salaires vers le bas. Depuis la guerre d'indépendance, en 1776, la bourgeoisie s'était tout à fait accommodée de l'esclavage au Sud, complémentaire, en quelque sorte, de l'économie capitaliste fondée sur le salariat qui prédominait au Nord. Mais au milieu du XIXe siècle, les conflits entre le Nord et le Sud se multipliaient. D'une part, l'abolitionnisme progressait dans les cercles libéraux du Nord. Le pouvoir politique des États du Sud était bien établi au sein de la Fédération. Mais les planteurs avaient besoin de nouveaux espaces cultivables et ils s'inquiétaient du statut des nouveaux territoires colonisés à l'Ouest. Seraient-ils libres ou esclavagistes ? Le conflit était également économique. Le coton était produit par le Sud, mais la part la plus importante des profits revenait aux capitalistes du Nord à travers les activités de transport, de stockage, d'industrie. La bourgeoisie du Nord était en concurrence avec la bourgeoisie britannique à laquelle les planteurs du Sud étaient liés. C'est sur ce conflit, bien plus que sur la volonté d'émanciper les esclaves, qu'a débuté la guerre civile. Autrement dit, cette guerre civile était la poursuite du conflit entre, d'une part, les États-Unis, la bourgeoisie du Nord, et de l'autre, la Grande-Bretagne, associée aux planteurs du Sud. Cette guerre civile a ravagé le pays de 1861 à 1865. Dans un pays de 30 millions d'habitants, elle a fait 600 000 morts. Abraham Lincoln n'a pas été élu en 1860 en promettant l'abolition, mais il était opposé à l'expansion de l'esclavage vers l'Ouest, et son élection menaçait donc l'équilibre dans la Fédération. C'est pourquoi 11 États sudistes ont fait sécession. La guerre visait donc à la préservation de l'Union, pas à l'abolition de l'esclavage. Mais pour la gagner, Lincoln est allé jusqu'au bout. En 1863, alors que l'issue du conflit était indécise, il a aboli l'esclavage dans les États sécessionnistes, sapant ainsi l'économie du Sud. 200 000 esclaves ont rejoint l'armée de l'Union, 300 000 autres ont gagné le Nord. L'abolition est devenue une arme entre les mains du Nord, et c'est ainsi que la guerre, débutée contre la sécession, s'est transformée en un combat pour l'émancipation. Lincoln n'a pas reculé devant cette décision. Quand la guerre a pris fin en 1865, l'esclavage était aboli pour 4 millions de Noirs. Mais une nouvelle guerre commençait pour savoir quelles seraient désormais leurs conditions. En théorie, ils étaient libres. Nombre d'entre eux quittèrent les plantations de coton et cherchèrent à bénéficier de droits nouveaux, celui de voter, d'occuper différentes fonctions électives, juges, shérifs, représentants dans les assemblées des États et même au Congrès fédéral, une justice équitable et l'éducation publique gratuite. Ils en bénéficièrent dans un premier temps pendant la Reconstruction, cette période évoquée par le roman de Howard Fast, « La route de la liberté ». Très politisés au travers de ces circonstances, les Noirs s'organisèrent souvent aux côtés de Blancs pauvres du Sud, par exemple dans des unions de métayers et de travailleurs agricoles. C'était la preuve, s'il en était besoin, qu'il n'y avait pas d'opposition essentielle des uns aux autres. C'était une opposition voulue, fabriquée par les possédants. La réaction des planteurs et des politiciens blancs racistes ne s'est pas fait attendre. Surtout qu'au milieu des années 1870, le gouvernement fédéral passa un compromis avec les États du Sud. Les politiciens bourgeois du Nord ne voyaient pas d'un bon œil cette alliance des pauvres. Ils retirèrent l'armée du Sud et laissèrent les Noirs livrés à eux-mêmes. Le Ku Klux Klan, formé en 1866, organisa des campagnes de terreur contre eux et contre les Blancs pauvres qui refusaient de se détourner de leurs frères de classe. La ségrégation se mit en place. Des codes noirs formalisaient l'infériorité légale des Noirs. Si leur oppression a donc survécu à l'esclavage, c'est d'abord parce qu'elle était à la base de l'économie du Sud, toujours centrée sur le coton. Les planteurs exploitaient la main-d'œuvre noire, et cette situation procurait à des Blancs des emplois de contremaître dans les forces de l'ordre, de minuscules privilèges. Pour la plupart des petits paysans blancs, cela ne changeait pas grand-chose, sinon qu'il y avait toujours plus pauvres qu'eux. Les emplois qui leur étaient réservés étaient un moyen pour les patrons de s'attacher leur loyauté tout en maintenant les salaires les plus bas. S'ils revendiquaient des augmentations, leurs patrons les menaçaient de les remplacer par de la main-d'œuvre noire. Quant à la bourgeoisie du Nord, désormais hégémonique, elle s'accommodait fort bien de cette inégalité. Les présidents américains successifs, les cours fédérales, le Congrès, toutes les institutions ont accepté, défendu la ségrégation pendant des décennies. En s'appuyant sur les cadres sociaux hérités de l'esclavage, la bourgeoisie blanche a tout fait pour mettre en place cette nouvelle forme de domination. À l'origine de l'oppression des Noirs, il y avait donc la politique des classes privilégiées, les planteurs du Sud, mais la bourgeoisie de façon plus générale. La ségrégation était consacrée par une série de lois adoptées au Sud, surnommées Jim Crow. Au niveau fédéral, il n'y avait pas de distinction légale sur la base de la couleur de la race. Mais en réalité, une série de mesures discriminatoires pesaient sur les Noirs. La forme la plus violente de ce racisme institutionnel, c'était sans doute le lynchage, c'est-à-dire les exécutions sommaires. Entre 1877 et 1950, quelque 4000 Noirs furent lynchés, soit près d'un par semaine. C'était une forme de terreur. Les Noirs devaient rester à leur place sous peine de mort. Ainsi, un Noir fut lynché parce qu'il n'avait pas dit « monsieur » à un policier. Un autre parce qu'il avait refusé d'enlever son uniforme militaire au retour de la guerre. Il n'était pas possible, jusqu'aux années 1950, de contester la domination blanche sans risquer d'être arrêté, battu, assassiné, brûlé vif. Les lyncheurs n'étaient en général pas inquiétés par la justice quand ce n'étaient pas eux-mêmes des policiers ou des juges. D'une certaine façon, les tribunaux prolongeaient le lynchage. En 1945, un Noir fut ainsi exécuté pour le prétendu viol d'une blanche après une délibération de 2 minutes et demie. Cette pratique était sanctifiée par les plus hautes autorités. L'évêque du Mississippi justifiait le lynchage en disant « les lois sont trop lentes et les prisons trop pleines ». La chanteuse de blues Billie Holiday fut harcelée par le FBI et la justice américaine jusqu'à la fin de ses jours parce qu'elle avait dénoncé le lynchage avec la chanson « Strange Fruit » écrite par le communiste Abel Miropol. « Les arbres du Sud, chantait-elle, portent un étrange fruit, du sang sur les feuilles et du sang aux racines, un corps noir qui se balance dans la brise du Sud, étrange fruit suspendu au peuplier. » La ségrégation prenait bien d'autres formes, telles que la séparation dans les logements, les écoles, les lieux de travail, les transports, les bars, les cinémas, les parcs et les hôpitaux, tous les lieux publics de façon générale. Dans l'Alabama, par exemple, une loi précisait, je cite, « Tout restaurant ou tout autre endroit où est servi de la nourriture sera illégal s'il ne prévoit pas des salles distinctes pour les personnes blanches et de couleur, à moins que celles-ci ne soient efficacement séparées par une cloison pleine s'étendant du plancher vers le haut à une distance minimale de 7 pieds et à moins qu'une entrée séparée soit prévue. » Les Noirs étaient privés de nombreux droits, y compris du droit de vote, qu'ils pouvaient exercer en théorie, mais rarement dans la pratique. Avant la révolte des années 50 et 60, de nombreuses résistances ont pris forme. Dans les années 1890, dans plusieurs États du Sud, des partis du peuple rassemblaient des petits paysans pauvres, noirs et blancs souvent unis, contre la dégradation de leurs conditions de vie et la menace de finir ruinés. Nombre d'entre eux soulignaient que le racisme avait divisé les pauvres et renforcé les riches. Leur mouvement fut défait et les droits des Noirs reculèrent encore dans plusieurs États. Par ailleurs, dès la fin du XIXe siècle, les Noirs ont fait campagne contre le lynchage. Des organisations politiques se sont constituées. La plus ancienne était l'Association pour l'avancement des gens de couleur, la NAACP. Cette importante organisation réformiste, fondée en 1909 à la suite d'un lynchage collectif, entreprenait des procès, des campagnes contre les aspects les plus révoltants de la ségrégation. En 1940, elle comptait 50 000 membres. En 1946, 500 000. C'était une organisation bourgeoise dans sa direction, opposée au mouvement ouvrier, et qui, même sur le terrain des droits civiques, se refusait à user de la force. Mais il fallait bien du courage à ceux qui la rejoignaient, même pour mener des combats judiciaires contre les discriminations face à la dictature féroce qui s'exerçait contre eux. Avec une toute autre politique, le Jamaïcain Marcus Garvey fonda avec succès l'Association universelle pour l'amélioration des nègres dans la foulée de la Première Guerre mondiale, alors que 400 000 soldats noirs avaient fait la dure expérience de la ségrégation dans l'armée. Quand ils rentraient, le Ku Klux Klan était en plein renouveau et l'été de 1919 fut marqué par une série d'émeutes raciales, souvent des attaques violentes de blancs racistes contre les noirs. Socialement, Garvey était un conservateur qui défendait le capitalisme, combattait les syndicats et le communisme. Mais son discours parlait aux Noirs, en particulier dans les États du Nord. Il leur disait qu'ils devaient être fiers de leur couleur, que Dieu était noir et les Blancs des démons. Il militait pour l'union des 400 millions de Noirs d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique, pour qu'ils aillent vivre dans une Afrique libérée du colonialisme européen. La plupart de ceux qui le suivaient n'avaient pas connu l'Afrique et n'aspiraient pas à y vivre. Comme le notait alors Trotsky, le succès de Garvey exprimait l'aspiration à la fin de la domination des Blancs et le retour vers l'Afrique concrétisait l'idée que les Noirs pouvaient y échapper. Quand une femme noire bousculée par une blanche dans un bus lui lançait, je cite, « Attendez que Marcus soit au pouvoir et vous serez traités, vous autres, comme vous le méritez », elle ne pensait pas à l'Afrique mais aux États-Unis, où les Noirs vivaient depuis des générations. L'organisation de Garvey avait des dizaines de milliers de membres et des millions de partisans. Ce qui faisait peur aux partisans de la suprématie blanche, ce n'était pas ses idées. Garvey lui-même était pour la ségrégation et contre les droits civiques. C'était l'espoir qu'il représentait pour des millions de Noirs. En 1925, il fut arrêté, jeté en prison pendant 2 ans pour fraude, puis expulsé vers la Jamaïque. Son parti déclina et laissa un vide. Cependant, dans les années 1930, des organisations comme la Nation de l'Islam, dont on reparlera, se sont enracinées dans des villes comme Détroit et Chicago avant de connaître un développement rapide. Elles étaient animées par des idées semblables à celles de Garvey et parfois par les mêmes militants. Quant au mouvement ouvrier, il avait été confronté à l'oppression des Noirs dès sa formation, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Il s'était construit sur des bases largement corporatistes, avec une confédération syndicale, l'American Federation of Labor, l'AFL, hégémonique des années 1880 aux années 1930. Elle était composée de syndicats de métiers qui se préoccupaient essentiellement de défendre les intérêts de leurs membres, des ouvriers qualifiés, dans le cadre du capitalisme américain. Ils refusaient d'organiser les ouvriers non qualifiés, a fortiori les Noirs. Nombre de leurs dirigeants inscrivaient dans leur statut des clauses empêchant les Noirs de syndiquer. Ils acceptaient, répercutaient ainsi la pression raciste de la société, de l'État, qui protège les privilèges de la grande bourgeoisie. Des exceptions contredisaient heureusement cette règle. Ainsi, dans le Sud, le syndicat des mineurs, fondé en 1890, qui comptait 20 000 Noirs dans ses rangs et luttait parfois contre les différences de salaire et de poste entre Noirs et Blancs. Ce combat fut cependant écrasé au début du XXe siècle. Un syndicat de dockers, fondé en 1902, comptait également un tiers de Noirs. Après la Première Guerre mondiale, un syndicat de scieurs de bois en Louisiane leur était également ouvert, ce qui lui valait d'être brutalement réprimé. Enfin, une organisation avait été fondée en 1905 en opposition au syndicalisme conservateur de l'AFL, les IWW, les travailleurs industriels du monde. Ils comptaient de nombreux socialistes dans leur rang et militaient pour un syndicalisme industriel, c'est-à-dire qui organise tous les travailleurs, indépendamment de leur qualification, de leur sexe, de leur origine nationale et de la couleur de leur peau. Jamais les IWW ne tolérèrent de sections syndicales séparées. Ils lancèrent des campagnes de recrutement en direction des travailleurs noirs, dont peut-être 100 000 les rejoignirent sur le million des adhérents, sur le million d'adhérents que les IWW comptèrent dans leur histoire. Après s'être vaillamment opposés à la participation américaine à la Première Guerre mondiale, les IWW déclinèrent sous les coups de la répression. La plupart des Noirs vivaient alors dans le Sud, mais le pays connut à partir des années 1910 un changement majeur. De nombreuses opportunités d'emploi s'ouvraient au Nord, qui s'industrialisaient rapidement. Environ 1 million de Noirs quittèrent le Sud. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette grande migration s'est accélérée, et en 1944, un tiers des Noirs vivaient au Nord, comme à Chicago, et à l'Ouest, comme à Los Angeles. Dans ces régions, la ségrégation n'était pas de droit, mais de fait. Les Noirs vivaient à part des Blancs, et l'État lui-même favorisait cette séparation. Dans les années 30, l'État fédéral avait pour politique de financer la ségrégation des logements. Alors que les immigrants de diverses origines étaient mêlés, des immeubles spécifiques étaient construits pour les Noirs à l'écart de ceux des Blancs. L'administration Roosevelt empêchait ainsi le mélange des Noirs et des Blancs dans les mêmes quartiers et du coup dans les mêmes écoles. En outre, le Sud n'avait pas le monopole du racisme. Le romancier Richard Wright, qui avait grandi dans le Mississippi, racontait ainsi ce qu'attendait sa famille quand ils étaient venus vivre à Chicago en 1927. Je le cite. « Des briques sont lancées contre les fenêtres de nos maisons, des ordures jetées sur nos enfants quand ils se rendent à l'école, et pour finir, des bombes explosent devant nos portes. » La centrale syndicale CIO, fondée en 1935 dans le contexte d'une grande vague de grève et en opposition au corporatisme de l'AFL, organisait les Noirs. Mais les grandes entreprises du Nord les mettaient en concurrence avec les ouvriers blancs, parfois avec succès. Les Noirs occupaient toujours les emplois les plus durs et certaines entreprises leur fermaient complètement leurs portes. Ou au contraire, elles s'en servaient comme une armée de réserve en les embauchant en cas de pénurie, en cas de grève ou encore pour peser sur les salaires des Blancs. On en arriva à des aberrations comme cette grève des conducteurs de tramway de Philadelphie en 1944 contre la promotion de Noirs formés à la conduite. À Détroit, l'industrie automobile était frappée par de telles grèves en 1943 et la ville elle-même fut le théâtre d'une terrible émeute raciale quand des Blancs arrivés récemment du Sud s'attaquèrent à des Noirs arrivés eux aussi récemment faisant des dizaines de morts. Quant au mouvement socialiste, il avait une tradition d'opposition à l'oppression des Noirs. En 1853 déjà, lorsque le camarade de Karl Marx, Joseph Weddemeyer, participa à Chicago à la Ligue des travailleurs américains. Une de ses règles, alors très audacieuse, était que, je cite, « tous les travailleurs vivant aux États-Unis, sans distinction de métier, de langue, de couleur ou de sexe, peuvent devenir membres ». Les partisans de la Première Internationale, dans les années 1860 et 1870, luttaient également contre l'oppression des Noirs. C'était aussi le cas de militants des générations suivantes qui voyaient bien la façon dont le capitalisme américain utilisait le racisme pour mieux exploiter tous les travailleurs. Au début du XXe siècle, le Parti socialiste comptait certes une aile droite raciste, mais d'autres dirigeants combattaient le racisme au sein du mouvement ouvrier, comme Eugène Debs, qui refusait de s'adresser à des audiences ségrégées et organisait des luttes contre les tentatives du Parti démocrate de limiter l'accès des Noirs au droit de vote. Le Parti communiste avait également constitué, dès sa fondation en 1919, des organisations de lutte contre l'oppression des Noirs. L'Internationale communiste insistait pour que sa section américaine prête attention aux problèmes particuliers des travailleurs noirs, milite en leur direction et les défende auprès des Blancs. En 1922, le 4e congrès de l'Internationale adopta des thèses sur la question nègre. Elles anticipaient sur le rôle pionnier des prolétaires noirs américains par rapport aux Blancs. Je cite « La lâche participation des nègres à l'industrie après la guerre, l'esprit de rébellion qu'ont éveillé en eux les brutalités dont ils sont victimes, met les nègres d'Amérique, et surtout ceux de l'Amérique du Nord, à l'avant-garde de la lutte de l'Afrique contre l'oppression. » Fin de citation. L'Internationale faisait de ce combat une tâche prioritaire. Ses membres devaient combattre pour l'égalité politique et sociale. Ils devaient lutter pour que les syndicats admettent les Noirs et si ces syndicats s'y refusaient, ils devaient aider les Noirs à former leurs propres organisations. Le Parti communiste se lança dans des campagnes, comme par exemple l'affaire des garçons de Scottsboro en 1931. 8 jeunes Noirs de l'Alabama, poursuivis pour le viol de 2 blanches qu'ils n'avaient pas commis, condamnés à mort après un procès d'une seule journée, et que la NAACP ne voulait pas défendre. L'EPC mena une campagne internationale et obtint leur acquittement, ce qui lui valut du crédit parmi les masses noires. Au début des années 30, l'EPC revendiquait l'autodétermination et la constitution d'une nation noire dans la ceinture noire, un ensemble de comtés au sud où les Noirs étaient majoritaires. En 1933, lors d'une discussion avec des militants américains de son courant, Trotsky insistait pour qu'ils défendent vigoureusement le droit des Noirs à disposer d'eux-mêmes. Les Noirs, disait Trotsky, ont plein droit à l'autodétermination s'ils le désirent, et nous les soutiendrons et les défendrons avec tous les moyens dont nous disposons dans la conquête de ce droit, comme nous défendons tous les peuples opprimés. Il soulignait la responsabilité des travailleurs blancs, les gredins qui persécutent les Noirs et les Jaunes, les méprisent et les lynchent. Trotsky pensait que les militants noirs de son courant ne devaient pas revendiquer la séparation de la nation noire comme le faisait le PC. Ils devraient s'y opposer au nom d'une autre politique. Il mesurait le potentiel explosif des masses noires. Les Russes, disait-il en référence à la révolution de 1917, étaient les Noirs de l'Europe. Il est fort possible que les Noirs, à travers leur autodétermination, viennent eux aussi à la dictature du prolétariat en quelques gigantesques enjambées avant le grand bloc des ouvriers blancs. Et Trotsky insistait sur la nécessité que les militants américains de son courant s'implantent parmi les Noirs et luttent partout pour la fraternisation de classe. Quant au Parti communiste, sa politique épousa les zigzags de l'Internationale communiste dirigée par Staline. À partir de 1935, il adopta ainsi la politique de Front populaire, dictée par Moscou, et qui consistait à soutenir des gouvernements bourgeois contre Hitler. C'est ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'EPC soutint l'effort militaire américain, s'opposa à une marche des Noirs vers Washington pour leurs droits. Il subordonnait tout à l'effort de guerre, y compris le droit de grève et la lutte pour les droits civiques. Alors que Roosevelt refusait toute législation contre le lynchage, l'EPC le soutenait. Il perdit ainsi des centaines de militants noirs qu'il avait rejoints et il en déconcerta bien plus encore. Cette politique poussa les plus révoltés et les plus militants d'entre eux à s'organiser à part sur des bases communautaires. Elle contribua ainsi à maintenir le fossé entre les travailleurs blancs et noirs. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 3 millions de Noirs furent mobilisés, 500 000 d'entre eux envoyés outre-mer. Comme l'écrivait le militant d'extrême gauche CLR James, je cite, « Chaque fois que le sang doit être versé, les dirigeants de ce pays estiment que c'est aux nègres de verser le leur. Ils ont privé le nègre du droit de vote, ils lui ont refilé les pires boulots, ils l'ont embarqué dans les pires taudis, ils l'ont lynché, mais quand ils veulent que les gens meurent pour la démocratie, alors soyez sûrs qu'ils viendront chercher les nègres. » Nombre de ces soldats sont revenus révoltés par les discriminations subies dans l'armée. Même le réseau de transfusion sanguine était ségrégué. Après avoir combattu pour la prétendue liberté, y compris dans des pays où les Noirs pouvaient se mêler à des Blancs, ils rentraient chez eux et risquaient le lynchage. En outre, la guerre avait amené des centaines de milliers de Noirs sur la côte pacifique ou dans le Nord, où ils devinrent ouvriers. Même dans le Sud, ils travaillaient de moins en moins dans les champs de coton et de plus en plus dans des villes. De nombreuses formes inédites de résistance se manifestaient. Par exemple, en février 1946, à Columbia, dans le Tennessee, une bagarre opposa un blanc et un noir, le noir eut le dessus, et quand 4 policiers blancs pénétrèrent dans son quartier, des habitants leur tirèrent dessus. Et de nombreux autres incidents montraient que les Noirs n'étaient plus disposés à subir. Face aux protestations, les institutions fédérales prirent quelques mesures, qui restèrent souvent lettre morte. En 1944, la Cour suprême interdisait les élections primaires réservées aux Blancs. En 1954, elle interdisait la ségrégation scolaire, en demandant que cela s'applique avec toute la rapidité requise. 10 ans plus tard, Seuls 2,3% des enfants noirs fréquentaient des écoles intégrées. Le mouvement des droits civiques n'éclata donc pas dans un ciel serein. Les résistances à l'oppression raciale qui s'étaient exprimées dans les années 30 et 40 se transformèrent en 1955 en une lame de fond qui devait durer, selon des formes et des rythmes divers, près d'une vingtaine d'années. À l'été 1955, Emmett Till, un adolescent de 14 ans, fut lynché dans le Mississippi parce qu'il avait sifflé une femme blanche. Sa mère se battit pour récupérer le corps de son fils et le faire ramener à Chicago où elle vivait. Elle ouvrit le cercueil elle-même, le montra au public, ce corps atrocement mutilé, dont des photos furent publiées dans la presse. En septembre, les deux meurtriers furent acquittés. La délibération avait duré 1h07, et encore parce que le jury, entièrement blanc, avait fait une pause pour un soda. 50 000 personnes assistèrent aux obsèques d'Emmett Till à Chicago, et des millions d'autres étaient révoltées par cette affaire, qui symbolisait ce que nombre d'entre elles avaient vécu. C'est dans ce contexte que, le 1er décembre 1955, à Montgomery, dans l'Alabama, Rosa Parks fut arrêtée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Il y avait déjà eu bien des épisodes identiques auxquels la NAACP n'avait pas choisi de donner suite parce que la personnalité des personnes concernées n'était pas jugée satisfaisante. Comme l'expliqua le secrétaire de la section de Montgomery, Rosa Parks, qui militait pour les droits civiques depuis 12 ans, était, je le cite, « mariée, moralement nette et elle avait une bonne éducation ». Fin de citation. Cette couturière de 43 ans expliquait « J'avais travaillé dur toute la journée. Mon travail, c'est de fabriquer les blancs, les vêtements que portent les blancs. » Elle fut le symbole que se donnèrent les Noirs de Montgomery, puis de tout le pays. Pendant le boycott des bus de la ville, 50 000 Noirs marchèrent tous les jours ou s'emmenèrent en voiture les uns les autres pour aller au travail, souvent à des kilomètres de chez eux. Non pas pendant une semaine ou pendant un mois, mais pendant 381 jours. Une centaine d'organisateurs du boycott furent emprisonnés en vain. Quatre bombes explosèrent dans des églises noires en vain. Les blancs de Montgomery n'en revenaient pas, les militants noirs non plus. La Cour suprême finit par interdire la ségrégation dans les transports municipaux. Le boycott de Montgomery ne marquait pas le début d'une lutte. Cette lutte était déjà engagée. Mais il était la preuve que les noirs pouvaient gagner. Et du coup, il donna une impulsion à tout le combat pour les droits civiques au cours de la décennie qui suivit. C'est Martin Luther King qui en devint le principal dirigeant. C'était un pasteur de 26 ans, issu de la petite bourgeoisie noire. Son père était le pasteur de la plus grande église baptiste d'Atlanta. Il était titulaire d'un doctorat. Il s'appuyait sur les sentiments religieux de nombreux noirs du Sud. Depuis l'esclavage, c'était les églises noires qui avaient constitué les seules institutions vraiment reconnues chez les noirs, et elles étaient les principaux centres de résistance à l'oppression. King dirigeait une organisation chrétienne pour les droits civiques, la SCLC, basée sur ces églises. Il répondait à la violence par la non-violence et l'action de masse dans la tradition de Gandhi. Il était physiquement courageux, y compris quand le Ku Klux Klan plaçait des bombes chez lui. Mais c'était un réformiste qui croyait au dialogue avec le pouvoir pour faire avancer les choses, qui pensait que l'État, bien que raciste, pouvait être poussé à défendre les intérêts des Noirs. Sur le fond, il n'était pas très différent des avocats de la cause noire depuis un demi-siècle. Ce qui avait changé, c'est que les Noirs n'avaient plus peur, ils s'engageaient dans une vaste révolte. Dans un premier temps, jusqu'au milieu des années 60, ces mobilisations prirent des formes similaires de non-violence. Boycott de bus, boycott de magasins. En 60, des étudiants de Caroline du Nord s'assirent à un comptoir où on ne servait que des blancs. En quelques jours, leur protestation se diffusa et quelques 70 000 étudiants noirs participèrent à ces actions. 3 600 d'entre eux furent arrêtés sans que cela entamât leur détermination. Puis, à partir de 61, dans les voyages de la liberté, des blancs et des noirs se mélangeaient, prenaient les mêmes bus ensemble vers le sud et utilisaient les salles d'attente, les cafétérias, les toilettes, sans tenir compte des restrictions raciales, pour défier la ségrégation. Ils étaient alors attaqués par des groupes liés aux clans, à coups de coups de poing et de barres de fer. Loin de les protéger, la police laissait faire, voire les arrêtait, ce qui ne les empêchait pas de continuer. À Albany, en Géorgie, la ville comptait 23 000 Noirs. 700 d'entre eux furent incarcérés pour leur participation au boycott des bus et de la bibliothèque, elle aussi ségrégée. Des domestiques, des ouvriers, des mères de famille, des écoliers. Quand le chef de la police, après une arrestation massive, releva les noms des manifestants, il se trouva devant un enfant de 9 ans à qui il demanda son nom. Et celui-ci lui répondit « Liberté, liberté !» Il a cependant fallu encore des années de lutte avant que, entre 1963 et 1965, la séparation institutionnelle, la ségrégation, finisse par craquer. C'était un système extrêmement archaïque et la bourgeoisie pouvait tout à fait s'arranger de sa remise en cause. Mais ce système aurait continué sans le mouvement de masse que j'ai évoqué. Par exemple, quand Kennedy devint président en 61, il était tout prêt à financer les églises noires et Martin Luther King, mais il réaffirmait que sa priorité c'était la guerre froide, la lutte contre le communisme, pas la justice raciale. Le Parti démocrate qu'il dirigeait avait longtemps été le pilier politique de la ségrégation dans le Sud. Par exemple, dans le Mississippi, en 1963, quand Kennedy fut assassiné, les Noirs n'étaient encore que 6% à être inscrits sur les listes électorales. Kennedy flattait les dirigeants du mouvement noir, discutait avec les uns et les autres, mais c'était pour mieux les contrôler, pas pour accéder à leurs revendications. À Birmingham, dans l'Alabama, 3300 personnes furent jetées en prison au cours du seul mois d'avril 1963. C'était la ville symbole du racisme du Sud, et la mobilisation déclencha une vague de protestation à une toute autre échelle. Partout dans le Sud, les Noirs descendaient dans la rue, risquaient les coups, les lances d'incendie, les morsures de chiens policiers, le licenciement, les arrestations, la mort. Des gens de tous les âges, dans toutes les villes, se battaient. En 1963, 20 000 personnes furent arrêtées, 4 fois plus qu'en 1960. Le 28 août 1963, 250 000 personnes se rassemblaient à Washington pour protester contre la ségrégation. C'est alors que Martin Luther King fit son célèbre discours « J'ai fait un rêve, I have a dream ». Il faisait l'impasse sur toute la colère que de nombreux Noirs ressentaient. Toutes les critiques dures à l'égard du gouvernement étaient passées sous silence. Le Congrès adoptait en urgence des lois pour les droits civiques. Mais de l'adoption de lois à leur mise en œuvre, il y a loin, et pendant tout le reste des années 60, les Noirs ont dû continuer à lutter. Par exemple, à Selma, dans l'Alabama, un des symboles de l'exclusion des Noirs du droit de vote, sur les 15 000 adultes Noirs de la ville, seuls 335 avaient réussi à s'inscrire, et les Blancs, qui étaient moins nombreux qu'eux, constituaient 99% de l'électorat. Le gouverneur de l'Alabama, Wallace, un démocrate, ne se cachait pas d'être raciste. Il proclamait « La ségrégation aujourd'hui, la ségrégation demain, la ségrégation toujours ». Quant au shérif de Selma, il opposait aux Noirs les matraques et les fusils. Lors d'une manifestation, en février 1965, un jeune Noir fut tué par la police. La protestation qui suivit fut dispersée avec violence par la garde nationale. Les manifestants furent pourchassés, matraqués, fouettés comme au temps de l'esclavage, piétinés par les chevaux des soldats. Les événements de Selma déclenchèrent une vague de révolte dans tout le pays. Une nouvelle loi interdisait les dispositions qui empêchaient les Noirs de s'inscrire sur les listes électorales, comme les tests d'alphabétisation, de connaissance de la Constitution ou de bonnes mœurs. Pendant l'essentiel des années 60, c'était le Parti démocrate qui était au pouvoir, avec Kennedy, puis avec Johnson. Johnson fit tout pour étouffer les mobilisations des Noirs. Il laissait les mains libres au gouverneur démocrate qui dirigeait les États du Sud et réprimait brutalement. Wallace, le ségrégationniste que j'ai cité, se présenta même à la primaire du Parti démocrate et il obtient un tiers des voix. Si plusieurs lois pour les droits civiques, comme celle qui, en 1965, garantissait le droit de vote des Noirs, furent adoptées sous Johnson, ce n'est pas parce que lui-même ou le Congrès y était favorable. Au contraire, Johnson s'appuyait sur le FBI, que le flic raciste, anticommuniste, forcené, sans scrupules, John Edgar Hoover dirigeait depuis 1924. Il menaçait Martin Luther King et tant d'autres militants de la cause noire pour les déstabiliser. Si le gouvernement et le Congrès américain firent adopter des lois pour les droits civiques, c'est parce qu'elles leur furent imposées par la révolte massive des Noirs. Les événements de Selma venaient après 10 ans de lutte pacifique. D'un côté, c'était une mobilisation de plus. De l'autre, c'était aussi la preuve que le mouvement des droits civiques était dans une impasse. La non-violence prônée par Martin Luther King, par la NAACP, par les églises noires avait échoué. Ce mouvement prenait fin et c'est une immense révolte, moins pacifique, qui commençait. Cela faisait déjà quelques années que des militants s'opposaient à la non-violence. Par exemple, Robert Williams, un militant noir de Monroe, en Caroline du Nord. Dans cette ville, la piscine municipale était interdite aux Noirs et les enfants noirs se baignaient dans une rivière dangereuse. Après que 2 enfants se furent noyés dans cette rivière, en 1961, Williams entama un piquet à la porte de la piscine. Les Blancs se rassemblèrent bientôt au cri de « Tuez les nègres, tuez les nègres !» Williams, un ancien militaire, expliquait que les Noirs devaient se défendre armés. C'était le meilleur moyen de se protéger, d'éviter de subir la violence. Ils ne devaient pas tendre l'autre joue. « Si un Blanc, expliquait Williams, redoute de perdre la vie, qu'il juge supérieure, en tentant de tuer un Noir qu'il juge inférieur, il ne le tuera pas. » Williams organisa les Noirs de sa ville pour qu'ils se défendent avec des armes. Il fut désavoué par la NAACP, en fut suspendu et dut quitter la région, puis le pays, pour se réfugier à Cuba, où il anima une émission très écoutée dans le sud des États-Unis. À Cuba, en 1959, la guérilla menée par Castro avait renversé la dictature de Batista, l'homme de paille des États-Unis. Cuba accordait aux Noirs une place égale à celle des Blancs, comme le constataient les militants noirs américains qui s'y rendaient. En outre, situé à 150 km des côtes américaines, Castro refusait de se plier à l'administration Kennedy, qui organisa une expédition militaire mise en déroute en 1961. Quand Castro s'était rendu à New York, il avait été accueilli en héros à Harlem. La révolution cubaine devait jouer un rôle dans le mouvement noir américain, comme d'autres mouvements de libération, en particulier dans les pays d'Afrique qui se révoltaient contre la tutelle coloniale. L'Égyptien Nasser avait aussi été salué à Harlem en 1960, quelques années après avoir nationalisé le canal de Suez et tenu tête aux puissances occidentales. Autre exemple, l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961. Ce dirigeant nationaliste congolais ne mâchait pas ses mots contre l'ancienne puissance coloniale belge, et son assassinat, avec le soutien de la Belgique et des États-Unis, révoltait les Noirs qui faisaient le lien entre les luttes anticoloniales en Afrique et leurs propres combats. Cette idée que les Noirs devaient cesser de compter sur la non-violence s'exprima de bien des façons dans la seconde moitié des années 60. Par exemple, en Louisiane, un autre exemple d'autodéfense était donné par les diacres pour la défense et la justice. Dans une région tenue par le Klan, ce groupe de Noirs avait fondé en 64 un groupe armé pour protéger les militants des droits civiques et leurs familles. La plupart de ces militants étaient des anciens combattants qui se servaient de leurs compétences militaires pour mettre en échec le Ku Klux Klan. Et puis, la Nation de l'Islam était de loin la plus grande organisation noire au Nord, parmi celles qui refusaient de tendre l'autre joue. Elle avait commencé comme une secte fondée à Détroit en 1930, avant de gagner du terrain. Dirigée par Elijah Muhammad, la Nation reprenait certaines idées de Garvey, comme la fierté des Noirs et la haine des Blancs. Alors qu'elle ne comptait initialement que quelques centaines de membres, elle vendait son hebdomadaire à 500 000 exemplaires au début des années 60. C'était vraiment une organisation de masse, très militante, plus un parti qu'une église, d'une certaine manière. Elle regroupait les Noirs les plus pauvres, en particulier au Nord, leur transmettait une certaine assurance et les engageait à se défendre. Quand le boxeur Cassius Clay, jeune champion du monde des poids lourds, rejoignit la Nation de l'Islam en 1962, il changea de nom pour Mohamed Ali et expliqua, je le cite, « Ce changement m'a affranchi de l'identité qui avait été donnée à ma famille par les maîtres des esclaves. » La Nation de l'Islam constitua sa propre milice, les fruits de l'Islam. Elle recrutait dans la jeunesse pauvre, voire délinquante des ghettos, ce que la NAACP avait toujours refusé à faire. Dans son autobiographie « Toute ma vie, j'ai lutté », le militant trotskiste américain Sam Johnson résume ainsi comment il rencontra à plusieurs reprises les musulmans noirs qui lui reprochaient de se faire défriser les cheveux. « Ses frères de la nation de l'islam, disait-il, ont été les premiers à me montrer qu'ils étaient prêts à défendre leurs droits. Quand on est tout seul dans son coin, c'est une chose, mais là, c'était une organisation qui parlait de lutter contre les problèmes qu'on pouvait avoir. » Cela résume l'expérience de centaines de milliers de Noirs, surtout dans les ghettos du Nord. Une des principales figures des musulmans noirs était Malcolm X, fils d'un prédicateur disciple de Garvey, assassiné par le clan. Malcolm, né Little, ancien délinquant, s'était politisé en prison, où il s'était converti et rebaptisé Malcolm X. X pour le nom africain qu'il n'avait jamais connu. Devenu un des dirigeants de la nation de l'islam, il dénonçait la non-violence comme lâche et inefficace, expliquant que les Noirs devaient se défendre. « Œil pour œil, disait-il, dent pour dent, et une vie pour une vie. Si c'est le prix de la liberté, nous n'hésiterons pas à payer le prix. » Le 26 avril 1957, la police de New York arrêta et tabassa sévèrement un musulman noir. Dans les heures qui suivirent, Malcolm X, qui dirigeait une mosquée de Harlem, mobilisa jusqu'à 4000 personnes devant le commissariat au milieu de la nuit. Ils obtinrent que le prisonnier reçoive des soins à l'hôpital. C'était une victoire, c'était la preuve que, en s'organisant de façon déterminée, les Noirs pouvaient s'imposer sans prendre des coups. Malcolm X fut invité dans les grands médias et commença aussi à faire l'objet d'une surveillance policière infiltrée. Charismatique, il fut bientôt très populaire, faisant de l'ombre à Elijah Muhammad, auquel il restait loyal, mais avec lequel les désaccords étaient fréquents. En novembre 1963, quand Kennedy fut assassiné, Malcolm X déclara que, je cite, « les poulets reviennent au poulailler », autrement dit, que Kennedy l'avait bien cherché, et que, ajoutait-il, « en tant que garçon élevé à la campagne, les poulets qui reviennent au poulailler ne m'ont jamais rendu triste, ils m'ont toujours réjoui ». Fin de citation. C'était une déclaration de guerre au gouvernement américain et aussi à Elijah Muhammad, qui redoutait la répression. Malcolm X fut exclu, fonda sa propre organisation. Sur le plan politique, à la différence de Martin Luther King, il ne recherchait ni un compromis avec l'État, ni une intégration des Noirs. Il revendiquait avant tout la séparation d'avec les Blancs. C'était aussi une façon de dire que la bourgeoisie blanche et son État pouvaient opprimer les travailleurs blancs, à condition de laisser la petite bourgeoisie noire construire son propre pouvoir et en faire autant avec les travailleurs noirs. Le nationalisme des musulmans noirs les amenait à revendiquer que, dans les quartiers noirs, il n'y ait que des commerces et des entreprises appartenant à des Noirs, et que l'argent de la communauté noire revienne avant tout au patron noir. Malcolm X fut assassiné en 1965, 15 mois après son exclusion, sinon par la nation de l'islam, du moins avec l'accord de Muhammad. Malcolm X était alors en pleine évolution. Après un pèlerinage à la Mecque, il expliquait que tous les Blancs n'étaient pas des diables. Il commençait à se réclamer du socialisme. Il voyait que le nationalisme noir était dans une certaine impasse. Il cherchait dans différentes directions et personne ne peut savoir comment il aurait évolué. Il était prêt à aller jusqu'au bout, ce qui explique qu'il marquait toute une génération. Si sa mort soulagea les défenseurs de l'ordre social, en revanche, il garda un prestige considérable auprès des masses noires. Son autobiographie fut lue par des centaines de milliers de personnes. Ses enregistrements étaient écoutés bien au-delà des rangs des musulmans. Parce que son discours résonnait avec les pratiques de bien des Noirs, qui, dans le Sud notamment, avaient dû s'organiser militairement pour se défendre, comme Robert Williams l'avait fait. Quand Malcolm X fut assassiné, la révolte des ghettos des grandes villes éclatait. La moitié des Noirs vivaient désormais dans le Nord. Ils formaient un sixième de la population de New York, un quart de celle de Chicago, un tiers de celle de Détroit. Ils y étaient victimes du racisme, du chômage, des discriminations au travail, favorisés par le patronat, parfois avec la complicité de certains syndicats. On l'a vu, de véritables ghettos s'étaient construits, avec des quartiers entièrement noirs, souvent pauvres, et des quartiers résidentiels entièrement blancs. Les écoles elles-mêmes étaient ségrégées. Même là où ils pouvaient exercer le droit de vote, les Noirs étaient en butte à l'exploitation et à la misère. Les violences policières à leur encontre n'étaient quasiment jamais sanctionnées. Par exemple, la police de Los Angeles avait tué 65 personnes en 2 ans et demi. En juillet 64, quand un policier tua un jeune noir de 15 ans, le quartier de Harlem à New York s'embrasa. Cette émeute eut lieu 2 semaines seulement après l'adoption de la loi sur les droits civiques qui interdisait les discriminations. De la part des émeutiers, c'était une manière de dire qu'ils n'en attendaient rien, qu'ils n'y croyaient pas. Dans le ghetto de Watts, à Los Angeles, l'émeute éclata le 11 août 65. Une brutalité policière sur un jeune noir déboucha sur 6 jours d'émeute où la police et les blancs étaient attaqués. 4000 personnes furent arrêtées, 34 furent tuées, toutes noires. Pour les émeutiers, c'était, quelques jours après la loi sur le droit de vote, encore une façon de dire qu'ils n'y croyaient pas. C'était des émeutes massives, auxquelles peut-être 80 000 personnes participèrent à Los Angeles. À Chicago, 3 noirs perdirent la vie dans des émeutes en 66. À Cleveland, la même année, 4 autres furent abattus. À Détroit, en 67, une émeute fut réprimée par l'armée. Il y eut 43 morts, 1200 blessés, 7000 arrestations et plus de 2000 bâtiments détruits. Et cela continua jusqu'à la fin des années 60. Le slogan du Black Power, le pouvoir noir, était directement issu de cette révolte des ghettos, celle de Watts pour commencer. Il fut ensuite repris par plusieurs organisations, mais c'était la révolte qui lui donnait vie. Le Comité de coordination non violent des étudiants, le SNCC, qui organisait depuis 1960 des actions dans les restaurants et les magasins, s'en empara ainsi. Il était dirigé par Rob Brown, qui faisait campagne contre la guerre du Vietnam, disait que la violence était, je le cite, « aussi américaine que la tourte aux cerises ». Et il demandait aux Noirs de retourner leurs armes contre le gouvernement. Et par Stokely Carmichael, un jeune militant des droits civiques qui avait été arrêté des dizaines de fois lors d'actions, de voyages de la liberté et de manifestations pacifiques. Le SNCC fut bientôt dénoncé non seulement par la presse, y compris celle des libéraux blancs, mais aussi par la NAACP. Leur slogan, le Black Power, allait à l'encontre de la politique d'intégration défendue par les uns et les autres. Il eut un succès immédiat. Le Black Power était en quelque sorte un prolongement, une radicalisation du mouvement des droits civiques. Ayant obtenu l'égalité légale, les Noirs en venaient à s'unir pour accroître leur pouvoir économique et politique. Dans la diversité de ses composantes, le Black Power se plaçait sur le terrain du nationalisme noir, pas de la lutte des classes. Il n'eut jamais pour ambition de renverser le pouvoir de la bourgeoisie blanche, il n'en avait pas les moyens. D'une certaine façon, il représentait aussi les intérêts de la petite bourgeoisie noire qui voulait maintenant sa part. Mais de toutes les façons, aucune force significative ne défendait aux États-Unis une perspective révolutionnaire prolétarienne. Personne ne proposait au mouvement noir cette politique. Le nationalisme des Noirs était en quelque sorte inévitable, car l'oppression qu'ils subissaient avait toujours eu le visage des Blancs. Du coup, la révolte sociale des Noirs contre l'exploitation et la misère se confondait avec leur révolte contre la discrimination raciale. Mais le succès du Black Power exprimait autre chose que le nationalisme. Il traduisait la radicalisation de millions d'hommes et de femmes qui s'étaient politisés et engagés dans une lutte où ils étaient prêts à prendre des coups, à risquer leur emploi, voire leur vie. Notre courant écrivait ainsi en 1967, je cite, « Les États-Unis voient la guerre sociale ravager leur territoire sous la forme la plus radicale qui soit, celle qui semblait avoir disparu d'Europe depuis longtemps pour ne plus jamais devoir reparaître dans un pays à niveau de vie élevé. L'insurrection urbaine qui soulève les rues et enflamme les villes. Il ne manque que les barricades pour que Watts et le Marais ou la Croix-Rousse soient synonymes à un siècle de distance. » Fin de citation. Poser la question du pouvoir... Poser la question du pouvoir, ce que le mouvement ouvrier américain n'avait jamais vraiment fait, avait un aspect révolutionnaire. Dans les quartiers noirs, des militants contestaient le pouvoir aux autorités, à la police. Ils disaient ne pas reconnaître le gouvernement, refuser son État, son armée et sa justice. Et ces militants n'étaient pas 10 ou 100, ils étaient des milliers dans de nombreuses villes. Le Black Power combattait la guerre du Vietnam. C'était une guerre terrible, menée par la première puissance mondiale qui, au nom de la lutte contre le communisme, déversait un tapis de bombes sur le peuple vietnamien, coupable de refuser de se soumettre. En 68, il y avait 500 000 d'Américains au Vietnam, dont de nombreux Noirs, car c'était pour l'essentiel les jeunes gens des classes pauvres qui faisaient cette guerre. Mais les Afro-Américains y étaient de plus en plus opposés. En 67, Mohamed Ali refusa l'incorporation dans l'armée, en disant, je le cite, qu'il n'avait rien contre le Viet Cong et qu'aucun Vietnamien ne l'avait jamais traité de négro. Il exprimait un sentiment largement partagé par les Noirs. Pourquoi me demanderait-il à moi, ajoutait-il, un parmi ceux qu'ils appellent les nègres, d'endosser un uniforme pour aller à 16 000 km de chez moi, jeter des bombes et des obus sur des hommes de couleur, alors que les Noirs, ici, sont traités comme des chiens et qu'on leur refuse les droits élémentaires de la personne humaine. Il fut déchu de son titre de champion, privé de sa licence de boxe pour des années. Mais des millions de Noirs étaient fiers de son attitude. Même un modéré comme Martin Luther King finit par condamner la guerre du Vietnam. Son assassinat, en 68, déclencha des émeutes, non pas dans une ville après l'autre, mais dans des dizaines de villes simultanément. Le président Johnson mobilisa l'armée et la garde nationale. Des dizaines d'émeutiers furent tués, des milliers d'autres blessés. C'était un échec du réformisme et de la non-violence. Aimer l'ennemi et tendre l'autre joue s'avérait sans issue. Partout dans le monde, la politique américaine au Vietnam jetait dans la rue des millions de gens. Toute une partie du monde était gagnée par une vague de mobilisation, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Japon, l'Égypte, l'Allemagne, la Pologne connaissaient des mouvements de contestation, notamment chez les étudiants, mais pas seulement. En mai 68, c'était la grève générale en France. En Tchécoslovaquie, le printemps de Prague amenait l'armée russe à intervenir. Au Mexique, l'armée tuait des centaines de manifestants. Je l'ai dit, le Black Power était un mouvement profond. Une de ses organisations, sans doute la plus importante, fut le parti des Black Panthers. Fondé dans la ville californienne d'Oakland en 66 par Huey Newton et Bobby Seale, le parti des Panthères Noirs pour l'autodéfense s'inscrivait dans la tradition de Malcolm X, même s'il ne se revendiquait pas de l'islam. Il vendait le petit livre rouge de Mao, essayait de marier le marxisme avec le nationalisme noir, avec toutes les contradictions que cela impliquait. Il dénonçait la guerre du Vietnam et expliquait que la prétendue croisade américaine pour la liberté dans le monde n'était qu'un masque hypocrite pour écraser les mouvements de libération des peuples. Il recrutait dans les couches les plus pauvres, parmi les jeunes noirs des ghettos, auxquels il donnait une fierté, une dignité, avec le style qui les caractérisait. Uniforme en cuir noir, béret et gants noirs, lunettes noires. Armé, il prétendait policer la police d'Oakland, qu'ils accusaient à juste titre de brutalité et de racisme. Quand la police arrêtait un noir, il se disposait de façon visible, lisait des extraits du code pénal, obligeant de fait des policiers embarrassés à renoncer à leurs interpellations. Ils eurent un succès fulgurant, avec, en 4 ans, des sections dans 68 villes et des milliers de membres. Ils furent bientôt impliqués dans de nombreuses fusillades avec la police. Ils constituaient une petite milice engagée dans des extorsions de fonds, des passages à tabac, voire des meurtres d'informateurs et d'opposants. Ils défiaient l'appareil d'État en quelque sorte, comme quand, en mai 67, ils envahirent en armes l'Assemblée de l'État de Californie. Cela leur valut une riposte brutale. Plusieurs centaines de militants furent arrêtés en 69. Le FBI en liquida plusieurs, à l'instar du dirigeant des Panthères à Chicago, Fred Hampton, assassiné dans son lit par un raid policier. Des preuves furent fabriquées, des procès truqués pour en neutraliser bien d'autres. Le programme de renseignement COINTELPRO, qui avait été mis en place dans les années 50 contre les communistes, organisa des centaines d'opérations. Dans les mois qui suivirent, les prisons où tant de jeunes noirs croupissaient furent également le lieu de la contestation du Black Power. En 70, dans la prison de Soledad, en Californie, un gardien de prison fut tué. Parmi les 3 hommes accusés du meurtre, les frères de Soledad, figurait George Jackson. À 28 ans, il était en prison depuis 10 ans, après avoir été condamné parce qu'il conduisait une voiture dans laquelle il devait s'enfuir avec un camarade après que celui-ci eût dérobé $70 d'une station service. Un parcours semblable à tant d'autres jeunes Afro-Américains. George Jackson fut finalement tué en prison 1 an plus tard, avant qu'un procès n'innocente les 2 autres frères de Soledad. En 71, Une rébellion dans la prison d'Attica, dans l'État de New York, fit 39 morts. Angela Davis fut poursuivie dans le cadre de l'affaire des frères de Soledad. C'était une jeune professeure de philosophie, recrutée par l'Université de Californie. Elle était membre du Parti communiste et des Black Panthers. Et en 1969, la direction de l'université avait tenté de la licencier dans la foulée de son recrutement, sur l'injonction du gouverneur de l'État, un certain Ronald Reagan, futur président des États-Unis. En vain, un jugement ayant ordonné sa réintégration. Accusée en 1970 d'avoir fourni des armes à une prise d'otage menée dans un tribunal par le jeune frère de George Jackson, elle fut bientôt traquée par le FBI et arrêtée. Une vaste campagne pour sa libération et celle de tous les prisonniers politiques fut menée et elle fut acquittée en 1972. Cependant, le mouvement noir était maintenant sur le déclin. Les Black Panthers étaient minés par des divisions internes, décimés par les coups portés par le FBI. D'autres organisations résistèrent mieux, mais aussi en se recentrant, comme la Nation de l'Islam, qui perdit le côté subversif qu'elle avait du temps de Malcolm X. Elle veilla à préserver ses positions, à éviter tout affrontement avec le pouvoir et à promouvoir son programme de capitalisme noir, un capitalisme tout aussi inégalitaire, à cette différence que les Noirs aurait les mêmes opportunités que les Blancs. Elle fut de plus en plus modérée et finit par perdre l'audience de la fraction la plus révoltée des Noirs, de la jeunesse en particulier. C'était donc la fin d'une période. Plusieurs millions d'hommes et de femmes s'étaient battus pendant des années parce qu'ils ne voulaient plus subir. Au sud, au nord, les ouvriers, les habitants des ghettos, mais aussi des catégories d'ordinaire bien plus difficiles à organiser, comme les métayers ou les domestiques, les femmes et les hommes, les adolescents et jusqu'aux enfants. C'est d'une telle colère que se nourrissent les révolutions. Même les athlètes portaient la révolte jusque dans les enceintes sportives, censées être des bastions de la neutralité, comme lors des Jeux Olympiques de Mexico, ou sur le podium, alors que résonnait l'hymne américain, le poing levé et la tête baissée des sprinteurs Tommy Smith et John Carlos exprimaient la rage de tout un peuple. C'est aussi la profondeur de cette révolte qui permet de comprendre la répression violente dont elle a été l'objet, à la mesure de la crainte qu'elle avait inspirée à la bourgeoisie. Du fait du rôle des États-Unis, la révolte des Noirs était regardée par les opprimés du monde entier. Depuis ses débuts, elle était particulièrement scrutée en Afrique noire, où plusieurs peuples luttaient contre la domination coloniale et pouvaient aisément assimiler le combat des Noirs américains au leur. Mais pas seulement. Quand Mohamed Ali fut privé de sa ceinture de champion par le gouvernement américain, des dizaines de milliers d'Égyptiens descendirent dans les rues du Caire pour protester. Comme l'écrivait la revue Lutte de classe en 1967, la révolte noire était un espoir pour toute l'humanité. Si les Noirs parvenaient à entraîner la classe ouvrière blanche, c'est tout le capitalisme américain, le gardien de l'ordre impérialiste qui pouvait vaciller. Sans révolution américaine, il ne pouvait y avoir de socialisme à l'échelle mondiale, ni d'émancipation nationale pour les pays opprimés par l'impérialisme. Si au contraire, la révolte des Noirs s'étendait au prolétariat blanc, tout devenait possible. Voilà pourquoi elle représentait un tel enjeu. Mais les Noirs ne constituaient qu'un huitième de la population américaine, peut-être un cinquième de la classe ouvrière. Dans la grande ville de Détroit, ils étaient devenus la majorité, en particulier aux postes les moins qualifiés d'industrie automobile. Un cinquième de la classe ouvrière, révoltée et mobilisée pendant une quinzaine d'années, c'est considérable. Le caractère massif de lutte qui prenait parfois un tour insurrectionnel avait des conséquences pour toute la société. L'enjeu, c'était donc de savoir si cette révolte pouvait se propager aux travailleurs blancs, qui étaient exploités par les mêmes capitalistes. Dans un tel cas de figure, l'État lui-même aurait été menacé. Cela n'a pas été le cas. Les prolétaires noirs étaient dans l'ensemble non seulement bien plus déterminés, plus révoltés que les blancs, ils étaient également plus conscients politiquement. On l'a vu, la bourgeoisie américaine a toujours veillé à ce que l'union entre les Noirs et les Blancs pauvres ne puisse se réaliser. Et ce fut encore le cas pendant le mouvement des droits civiques et la révolte des années 60. Elle s'appuya sur le racisme qui existait dans la classe ouvrière à partir du fait que de nombreux travailleurs blancs considéraient qu'ils avaient quelque chose à protéger parce que leurs conditions étaient un peu moins mauvaises. Malgré cela, il y avait aussi de nombreuses luttes où des travailleurs blancs s'étaient retrouvés aux côtés des Noirs. Par exemple, pendant la révolte de Détroit en 1967, où les blancs pauvres originaires du Sud ou de Pologne s'étaient joints aux émeutiers noirs et représentèrent un quart des victimes. Et la même alliance se noie dans bien d'autres grèves locales, ainsi que contre la guerre du Vietnam, en particulier parmi les soldats. C'était la preuve qu'une politique orientée dans ce sens aurait pu avoir de l'écho. La faillite de cette union entre les Noirs et les Blancs pauvres tenait d'abord à l'absence de parti ouvrier luttant dans cette perspective. Il n'existait pas aux États-Unis non seulement de parti révolutionnaire, mais même de parti ouvrier combatif. Si un tel parti peut se renforcer dans une situation comme celle de la révolte noire, il ne peut naître spontanément. On a vu comment le Parti communiste s'était coupé des Noirs par sa politique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait ensuite été affaibli par la répression macartiste des années 50. Quant aux dirigeants des principales organisations ouvrières, les syndicats de la FLCIO, résultant de la fusion des deux grandes confédérations, ils combattaient bien sûr une telle perspective. Localement, il existait certes de petites organisations qui se donnaient pour perspective la lutte commune de la classe ouvrière. C'était par exemple le cas du SWP, alors la principale organisation trotskiste, même s'il pêchait par suivisme vis-à-vis des nationalistes et était de toutes les façons trop faible pour jouer un rôle national. C'était aussi le cas d'une autre manière de la Ligue des travailleurs révolutionnaires noirs, un groupe créé en 1969 à Détroit, la capitale de l'automobile. À la différence des Black Panthers, ils cherchaient à s'implanter dans les usines plutôt que parmi les jeunes des ghettos et ils voulaient construire un parti révolutionnaire ouvrier. Ils étaient influencés par le maoïsme et par le nationalisme noir, mais ils voulaient donner un contenu de classe à leur révolte. Ils étaient convaincus qu'il fallait s'appuyer sur la classe ouvrière pour menacer la bourgeoisie. Mais à l'échelle du pays, il n'existait aucun parti à même de proposer cette politique. C'est pourquoi à l'époque, notre courant écrivait, je cite, « La première étape indispensable est de créer une organisation révolutionnaire noire, rigoureusement indépendante à tous les niveaux sur le plan national des organisations américaines auxquelles participent les Blancs. Il s'agit de créer, puisque la population noire a le niveau de conscience le plus élevé, un parti révolutionnaire trotskiste, véritable organisation de combat des Noirs américains. » Un tel parti aurait pu, à partir de la révolte et de la conscience des Noirs, s'adresser à la classe ouvrière blanche pour l'entraîner, pour la faire progresser politiquement. Si elle avait été proposée, cette politique se serait heurtée à bien des obstacles, mais elle n'a pas existé. Et la révolte des Noirs s'est ainsi trouvée isolée face à toute la puissance de la bourgeoisie et de l'État américain. Et nous allons faire une petite pause.